RFI, il est 23h en temps universel, 19h à Washington, le journal. Il est présenté ce soir par Mathis Limano. Bonsoir Mathis.
Bonsoir Pierre, merci à vous, bienvenue à toutes et à tous. Dans l'actualité, dernières heures de campagne aux États-Unis, l'élection c'est ce mardi. Qui de Donald Trump ou Kamala Harris sera à la Maison Blanche pour les 4 prochaines années? Tous deux martèlent en tout cas le thème du coût de la vie qui reste important dans le pays. Reportage à suivre à Atlanta dans l'état de la Géorgie. Dans la région de Valence, les sauveteurs toujours à pied d'œuvre pour retrouver des disparus. Le dernier bilan fait état de 217 morts après les inondations tragiques de la semaine dernière. Vous l'entendrez, il est maintenant temps d'établir les responsabilités. Élection contestée en Moldavie, l'opposition pro-russe ainsi que le Kremlin crient à l'ingérence occidentale 2 jours après la victoire de la présidente pro-européenne. Dernières heures de campagne dans la présidentielle américaine. Donald Trump se démultiplie dans les états clés. Il est attendu dans le Michigan après avoir sillonné la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, l'état du Nord-Est où Kamala Harris concentre toutes ses forces. De nouvelles stars devraient lui apporter son soutien, Lady Gaga, Ricky Martin ou encore Oprah Winfrey. Et dans leur meeting, les deux candidats martèlent le thème de l'économie et du pouvoir d'achat. Même si l'inflation a baissé, le coût de la vie reste très élevé aux États-Unis. Reportage d'Edouard Maya, Atlanta, dans l'état de Géorgie, où les électeurs sont divisés quant au choix à faire pour parer au coût de la vie.
À la dernière élection présidentielle, Ben, 22 ans, avait voté pour Joe Biden, mais aujourd'hui, et notamment à cause de l'augmentation du coût de la vie, ça sera pour Donald Trump.
Je ne vois pas l'intérêt de voter pour quelqu'un qui est déjà en poste aujourd'hui. Kamala Harris aurait pu changer les choses, mais ne l'a pas fait. Mais maintenant, d'un coup, elle dit qu'elle va changer les choses, donc pourquoi elle ne l'a pas fait avant ?
David, 36 ans, constate aussi l'augmentation du prix de ses courses, mais le démocrate ne pense pas que c'est la faute de Joe Biden.
Je pense que la pandémie du coronavirus est responsable pour beaucoup de l'inflation, mais il y a aussi l'avidité et les prix excessifs des entreprises américaines.
Les deux candidats à la présidentielle rivalisent dans leur programme pour aider les classes moyennes, mais pour Lay, 26 ans, Kamala Harris a les qualités qu'il faut.
She cares and she knows.
Elle se préoccupe des gens, elle sait d'où on vient et où on veut aller. Je parle du point de vue d'une femme noire. Elle est une femme noire, tout est dit. Et donc, juste se préoccuper de la classe socio-économique d'où elle vient.
En septembre, selon un sondage du Pew Research Center, l'économie était la priorité pour 81% des électeurs, loin devant l'accès à la santé avec 65%. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Un tiers des électeurs a déjà voté en anticipé à l'image de la candidate démocrate dimanche. Mon bulletin est en route pour la Californie, a annoncé Kamala Harris. Donald Trump, lui, votera en personne près de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le monde entier a les yeux rivés sur l'élection américaine la plus indécise de l'histoire. Notamment dans les plus hautes institutions internationales, l'OTAN devra rester unie, quel que soit le vainqueur, a lancé son chef Mark Rutte. Un vainqueur pas connu avant plusieurs jours, prévient l'équipe de Kamala Harris, mettant en garde le camp de Donald Trump contre toute tentative de semer le doute et le chaos sur l'intégrité de l'élection. Scrutin à suivre, bien sûr, sur notre antenne, ainsi que notre site RFI.fr et l'application Pure Radio. L'Organisation internationale pour les migrations annonce la mort de 25 personnes. Elle tentait de rejoindre le département français de Mayotte à bord d'un Kwasa Kwasa. Ces pirogues utilisées par les migrants en provenance des Comores, 5 rescapés ont pu être secourus par des pêcheurs. Dans la région de Valence, on recherche encore les disparus après les terribles inondations de la semaine dernière qui ont fait au moins 217 victimes. La gestion et la réponse des autorités est vivement critiquée. En témoignent les heurts dans les zones sinistrés à l'occasion de la visite ce week-end du roi et du premier ministre espagnol. En effet, se pose à présent la question des responsabilités. Pour cela, je vous propose d'écouter François Gemène, professeur à HEC, directeur du programme scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et spécialiste des questions de sécurité climatique. Il répond à Simon Rosé.
La population a besoin de pouvoir identifier qui est responsable de la catastrophe. Et en l'occurrence, il y a eu à l'évidence toute une série de dysfonctionnements politiques. Tout au cours de la journée, les autorités vont refuser d'interrompre la vie économique, vont penser que l'orage va s'éloigner, et on voit malheureusement les conséquences catastrophiques de ce retard à prévenir les gens. Et donc, évidemment, il y a eu une colère de la population qui se rend compte, eh bien, il y a beaucoup de vies humaines qui auraient pu être sauvées.
Ce genre d'événement météo extrême est dopé par le réchauffement climatique en termes d'intensité, oui. de fréquence. Est-ce que la population en a conscience que le réchauffement climatique, aujourd'hui, produit des conséquences de plus en plus fortes?
Oui, je pense que la population en a conscience, mais pour autant, c'est un discours qui est difficilement audible, notamment parce que les populations touchées ont l'impression que le changement climatique est utilisé comme une forme d'alibi par les politiques locaux pour se dédouaner de leurs responsabilités et pour se défausser en quelque sorte sur le changement climatique.
Et si l'agence météorologique espagnole a officiellement mis fin à l'alerte précipitation dans la région de Valence, l'inquiétude s'est déplacée quelques 350 km plus au nord, à Barcelone, placée en alerte rouge. Des pluies torrentielles ont entraîné de nombreuses annulations de vols à l'aéroport catalan. Réélection saluée par Berlin, Paris, Bruxelles, Kiev ou encore Washington. Maia Sandu reconduite à la tête de la Moldavie après l'élection de dimanche. La présidente pro-européenne a récolté 55% des voix contre le pro-russe Alexander Stoyanoglo et ses 44%. Ce second tour de la présidentielle a été marqué par des tentatives de déstabilisation, mais pour les observateurs internationaux, l'élection s'est déroulée dans les règles. Notre envoyé spécial Julien Chavanne.
La guerre hybride menée par la Russie a échoué. Les observateurs européens déployés dans le pays dressent un bilan positif du vote malgré les interférences étrangères. John Blikra est le chef de la délégation du Conseil de l'Europe.
Malgré les efforts continus de la Russie et de ses alliés parmi les oligarques moldaves pour perturber le scrutin et offrir des incitations illégales, cela n'a pas abouti. Cela montre que la majorité de la société moldave peut choisir ses propres dirigeants et tracer sa propre voie.
Le second tour a été marqué par des alertes à la bombe dans plusieurs bureaux de vote, en Allemagne notamment, où Berlin dénonce des tentatives inacceptables pour entraver le vote de la diaspora. On a aussi vu des expatriés moldaves installés en Russie amenés gratuitement par bus ou par avion à des bureaux de vote. Mais rien qui n'empêche Maia Sandu de retrouver son fauteuil d'après les autorités électorales. Cette victoire est contestée aujourd'hui par le Parti socialiste moldave. Maia Sandu est illégitime. C'est la présidente de la diaspora, écrivent dans un communiqué les soutiens du candidat malheureux Alexander Stoyanoglo. L'opposition n'appelle pas pour autant à manifester. Elle donne rendez-vous dans les urnes pour la prochaine bataille, les élections parlementaires prévues en 2025. Julien Chavanne, Kissinao, RFI.
Des milliers de pro-européens dans la rue en Géorgie, plus d'une semaine après la victoire du rêve géorgien aux législatives. Les manifestants dénoncent un scrutin entaché de fraude organisé par le parti pro-russe au pouvoir. Un résultat non reconnu par l'opposition pro-européenne de la présidente Salomé Zourabichvili. Et tandis que le Kremlin rejette les accusations d'ingérence, l'UE et les États-Unis réclament des enquêtes. Football, le Real Madrid accueille l'AC Milan ce mardi dans le cadre de la quatrième journée du tour principal de Ligue des Champions. Des merengués qui ont su rebondir après la défaite contre Lille en dominant le Borussia Dortmund 5-2. En face, les Milanais ont grandement besoin de points après deux défaites concédées pour une seule victoire. Real Milan, une affiche européenne spéciale pour Carlo Ancelotti, ancien coach des Rossoneri entre 2001 et 2009. Même si l'Italien n'a pas le cœur à penser football avec ce qu'il se passe en Espagne et les intempéries meurtrières qui ont touché la région de Valence.
Tout d'abord, cela fait une semaine que cette tragédie s'est produite. Nous sommes tristes, c'est l'émotion que nous ressentons. Nous sommes très proches de tout le monde, de Valence, de toutes les personnes qui ont été touchées par cela. Nous sommes vraiment proches d'eux. Nous espérons que cette situation grave pourra être résolue rapidement. En ce sens, je veux que vous compreniez, je suis sûr que vous comprendrez, que parler de football est un peu compliqué, tout comme jouer au football est très compliqué, parce que nous faisons partie de ce pays. Toute cette situation nous affecte.
Une pancarte de soutien aux Valenciens et minute de silence dans l'unique match de Liga espagnole ce lundi. Celta Vigo l'a emporté 1-0 face à Getafe. Duel de milieu de classement en Angleterre. Brentford s'incline à Fulham 2-1 après avoir mené quasiment tout le match. Et puis bien aidé par deux cartons rouges pour leur adversaire du soir, la Lazio Rome gagne 2-1 contre Cagliari en Italie. Les Romains ont ouvert la marque grâce à un but du Sénégalais Boulaïdia. Et puis un mot de culture pour refermer votre journal. L'écrivain Kamel Daoud à la fête ce soir. Il a été récompensé du prix Goncourt pour son livre Houri, une fiction sur les massacres de la décennie noire en Algérie. Autre prix attribué ce lundi, le prix Renaudot, le franco-rwandais Gaël Faye l'a emporté avec Jacaranda, publié chez Grasset. RFI, les minuit 10 ici à Paris.